Et avant de commencer cette émission et d'attaquer le sommaire, toute l'équipe de CELINFO vous souhaite une belle et heureuse année 2018. Nos souhaits les plus chaleureux vous accompagnent donc pour vous et vos proches pour cette nouvelle année.
C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud.
Et au sommaire cette semaine, lundi soir, alors que Carmen venait de balayer la France, les prévisionnistes annonçaient déjà l'arrivée de la tempête suivante pour la journée de mercredi. Et alors que tout le monde attendait David, c'était Éléonore qui est venue souffler sur les Hauts-de-France jusqu'à la Corse, causant notamment la mort d'un homme dans les Alpes et occasionnant des incendies sur l'île de Beauté. Avec Franck Payanave, nous serons en duplex de Biarritz pour revenir sur ces tempêtes violentes. À bas la dictature, mort à Rouhani. Ces slogans résonnent depuis une semaine au Moyen-Orient et plus particulièrement en Iran, où une vague de protestations secoue une quarantaine de villes du pays. Au total, une vingtaine de personnes sont mortes durant les troubles, dont 16 manifestants. C'est le plus important mouvement de contestation depuis 2009, lorsque les Iraniens s'étaient opposés à la réélection du président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Depuis jeudi 28 décembre, des milliers de manifestants se mobilisent contre la vie chère et le gouvernement du président Hassan Rouhani, mais également contre le guide suprême de la révolution islamique Ali Khamenei. Nous recevons à ce sujet Jonathan Piron, historien spécialiste du Moyen-Orient. Les nationalistes corses se sont officiellement installés au pouvoir ce mardi. Ce n'était plus qu'une question de temps après les élections reportées début décembre. Ainsi, l'indépendantiste Jean-Guy Talamy a été élu à la présidence de l'Assemblée de la toute nouvelle collectivité territoriale unique de Corse, tandis que l'autonomiste Gilles Simeoni a remporté la présidence du conseil exécutif de la collectivité. Et figurez-vous que lors de son discours d'investiture prononcé en langue corse, Jean-Guy Talamy a dédié sa victoire à leurs prisonniers et recherché. Reportage de Marine de la Moissonnière en fin d'émission. Le duplex avec Franck Payanave. Bonjour Franck.
Bonjour Martin, bonjour à tous et bonne année.
Bonne année, effectivement, édition un peu spéciale, puisque après nous avoir quitté de Barcelone il y a deux semaines, on vous retrouve à Biarritz. Pourquoi Biarritz?
On a choisi Biarritz tout simplement, le côté Méditerranée, on y était il y a 15 jours, maintenant le côté Atlantique, pour parler tout simplement des deux tempêtes qui ont touché la France cette semaine.
Oui, alors deux tempêtes, hein, Éléonore puis Carmen. Deux tempêtes qui se sont déplacées vers le centre de l'Europe, Carmen puis Éléonore, qui ont fait beaucoup de dégâts dans le sud-est et dans le sud-ouest, là où vous vous trouvez.
Oui, effectivement, des vents assez forts, hein, plus de 100 km/h, des vagues énormes, ce qui a poussé les municipalités, par exemple ici au Pays Basque, à fermer l'accès aux plages pendant plusieurs jours. Même, vous le voyez aujourd'hui, la plage a enfin ouvert, mais personne n'ose trop aller à l'eau. Il faut dire que les vagues sont extrêmement fortes. Il y a également la légendaire Belle Arras, c'est une des plus grosses vagues de la saison qui a été découverte aujourd'hui, non loin d'ici, entre Saint-Jean-de-Luz et Bidart. Mais en tout cas, vous le voyez, hein, maintenant le soleil est enfin revenu. Des dégâts, il y en a eu. Il y a eu également malheureusement des morts. Il y en a eu un, c'était en début de semaine. C'était à Esterhazy, c'est près de Saint-Jean-Pied-de-Port, un homme d'une soixantaine d'années qui a perdu la vie alors qu'il se trouvait dans sa voiture dans un bois et un arbre est tombé sur sa voiture. Et puis encore tout récemment, c'était mercredi, cette fois-ci au Pays Basque espagnol, où un couple a été emporté par une vague.
Oui, et côté Est en France, hein, là aussi des personnes sont mortes. On pense notamment à ce skieur de la station du Morillon dans les Alpes qui s'est pris un arbre en skiant. Donc on l'a compris, hein, dans le Pays Basque, là où vous vous trouvez, là encore, la tempête a fait des dégâts. Aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons ce direct, donc jeudi 4 janvier à 15h, le temps semble être revenu à la normale.
Oui, alors il y a quelques nuages forcément, comme d'habitude ici en bord de mer, mais les températures sont extrêmement bonnes. Il fait 21 degrés, enfin en tout cas il faisait 21 degrés quand on est arrivé ici à Biarritz. Et cette douceur, elle dure déjà depuis plusieurs jours dans le sud-ouest. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est le vent qui vient des Açores, vous savez, le fameux anticyclone des Açores qui amène cette douceur. Voilà, il fait 20 degrés, hier il faisait à peu près 15-16 degrés également. Donc voilà, c'est pour ça que malgré le temps, on va dire assez mauvais, hein, malgré la pluie, bon là même s'il fait assez beau, mais malgré le mauvais temps, eh bien, il fait relativement bon ici dans le sud-ouest.
Et
encore
alors,
une fois.
Oui, bah bien sûr, enfin, toujours, on connaît le sud-ouest. Et alors justement, y a-t-il eu une réaction de la part des autorités compétentes? On peut penser notamment à l'État.
Alors bien sûr, hein, dès que la vigilance orange de Météo France a été déclenchée, déjà le dimanche, les autorités se sont mises en œuvre pour protéger tout d'abord les infrastructures. Alors vous ne voyez peut-être pas, mais sur le côté il y a des sacs de sable afin de protéger le bâtiment du casino de Biarritz. L'accès à la plage a été complètement interdit pendant plusieurs jours. Les routes de bord de mer étaient déroutées sur d'autres routes plus sécurisées. Et les techniciens d'Enedis étaient notamment mobilisés pour rétablir l'électricité dans les milliers de foyers du 64 qui ont été privés d'électricité lors du passage de la tempête.
Oui, alors justement, Carmen, Éléonore, pourquoi ces tempêtes s'appellent par des prénoms de personnes, Franck?
Alors, la technique vient des États-Unis pour les différencier, mais en Europe, on a également mis en œuvre cette technique afin de mieux les répertorier, mieux les différencier. Alors, il y a deux systèmes, on va dire, de nomination. Il y a tout d'abord le système français, qui est jumelé avec celui de l'Espagne et du Portugal. Et puis, il y a le système britannique, c'est-à-dire que dès qu'il y a une tempête qui vient d'un des trois pays, France, Espagne, Portugal, elle prend le nom de ce système-là. Et si elle vient de Grande-Bretagne, elle prend le nom du système britannique. Et justement, c'est ce qui s'est passé, parce que vous l'aurez peut-être remarqué, on est passé de Carmen à Eleanor. Il n'y a pas eu de D. Pourquoi? Parce que le D était prévu par les Français, elle devait s'appeler David. Et mais vu que la tempête Eleanor est venue de Grande-Bretagne, c'est les Britanniques qui ont choisi de l'appeler Eleanor. Donc la prochaine tempête qui devrait toucher la France, on prévoit déjà, devrait s'appeler David.
Eh bien voilà, c'est dit. On espère qu'elle arrivera le plus tardivement possible pour vous, habitants de France. Alors Franck, pour citer hein, dans ce duplex un peu spécial, vous êtes donc sur la plage de Biarritz, si vous nous regardez en vidéo sur c-l'info.fr. Est-ce que vous pouvez aller toucher la mer pour nous?
Alors on l'a touché malheureusement tout à l'heure quand on est arrivé. Hein. Heureusement, plus de peur que de mal, je vais juste tourner un tout petit peu la caméra. Je vais laisser les...
C'est du direct, hein, c'est comme en direct.
Mais de ce que j'ai pu voir en tout cas tout à l'heure, la mer était assez bonne. Hop là, on va mettre un tout petit peu plus loin. Hop là, alors j'y cours, Martin.
Oui, il va se...
C'est du direct, alors bon, la vague vient de se retirer, j'espère...
Il va se mettre dans la vague, Franck Payanav, donc
notre correspondant. Elle est un peu fraîche, on attend que la vague arrive. J'espère ne pas me la prendre dans la gueule. Alors attention, suspense. Eh bien vous savez quoi, Martin? Elle est super bonne.
Elle est super bonne.
Et je vais rester. Elle est un peu fraîche. Mais quand on est surfeur comme moi, elle est très très bonne. Et bien vous savez quoi, je vais vous laisser ici.
Et bien voilà, on va laisser notre surfeur expérimenté, Franck Payanav, surfeur expérimenté, correspondant à Pau, qui nous couvre donc la zone du sud-ouest français pour C'est l'info et pour le duplex. À très vite, rentrez quand même, hein, rentrez sain et sauf. Franck, faites attention à vous.
Merci Martin, à bientôt.
À très bientôt, merci Franck.
Le duplex.
Et après donc la rétrospective 2017, la semaine dernière, hein, je vous invite à réécouter notre émission, c'était avec l'ensemble de l'équipe de C'est l'info. Nous allons à présent voir ce qui attend le monde en 2018, zone par zone, à commencer par les États-Unis où les présidents n'ont guère le temps de prendre leurs aises. Hein. 2 ans après leur victoire, ils doivent affronter des élections parlementaires dites de mi-mandat qui tournent rarement en leur faveur. Ça n'avait pas tourné en la faveur de Barack Obama notamment en 2010. En novembre prochain, tous les députés remettront leur siège en jeu, ainsi que le tiers des sénateurs élus pour 6 ans. Défait en 2016, les démocrates, le camp démocrate, hein, espère profiter de l'impopularité du républicain Donald Trump pour prendre leur revanche. Et l'enjeu est de taille, puisque si les démocrates parvenaient à tenir le Congrès, il pourrait à terme bloquer d'importants projets de la Maison-Blanche. Et ce n'est pas tout, car si l'enquête russe a porté son lot de révélations impliquant la tête de l'État, une procédure d'impeachment, de destitution, pourrait être envisagé par ceux qui en ont la responsabilité, c'est-à-dire les élus. L'année électorale sera également déterminante en Amérique latine. Ce n'est en effet pas dans les astres, mais dans les urnes que s'écrira en 2018 l'avenir de l'Amérique latine, à commencer par la Colombie. En effet, la paix en Colombie avec les FARC sera-t-elle confortée ou bien fragilisée ? Les vieux fantômes ressurgiront-ils au Brésil alors qu'un candidat populiste surfe sur la colère des électeurs en vantant les mérites des dictatures passées ? Et puis, eh bien, le Venezuela, osera-t-il et surtout pourra-t-il dire un non à un régime de plus en plus musclé ? L'épouvantail de Donald Trump fera-t-il également triompher la gauche au Mexique ? Ce calendrier électoral très chargé s'ouvrira dès mars avec des législatives en Colombie qui verront d'ex-guerrilleros des FARC se présenter devant les électeurs. Et comme un prélude à une intense saison présidentielle, Colombie, Mexique, Brésil et Venezuela voteront donc successivement en mai, juillet et octobre. La Corée du Nord est également dans le viseur de 2018. Rien n'est en effet réglé dans le dossier nucléaire et l'année 2018 devrait ouvrir une nouvelle période d'incertitude et d'inquiétude. Donald Trump avait promis en janvier 2017 qu'il empêcherait le leader Kim Jong-un de maîtriser ses missiles et son nucléaire. Or, durant l'année qui vient de s'écouler, Pyongyang a lancé pas moins de 20 missiles, dont les trois derniers capables d'atteindre les États-Unis et pratiquer un essai nucléaire souterrain. L'ONU a voté trois résolutions de sanctions très fortes visant à assécher les financements sur la Corée du Nord et ainsi pousser la table des négociations, mais rien n'est moins sûr pour l'instant. 2017 aura été également l'une des pires années qu'ait connue le Royaume-Uni depuis 1992, année déjà qualifiée d'annus horribilis par la reine Elisabeth qui a réutilisé cette même expression. Pour cette année marquée par plusieurs attentats, les difficiles négociations sur le Brexit, l'incendie de la tour de Grenfell dont a parlé Alexander Seale l'année dernière, la Grande-Bretagne souhaiterait passer une meilleure année 2018 grâce à l'annonce du mariage du prince Harry, faite le mois dernier avec la jeune américaine Meghan Markle. Ils se marient donc le 19 mai prochain et cela devrait ramener le sourire à tout le Royaume-Uni en 2018, d'autant que quelques mois auparavant, la famille royale comptera un prince ou une princesse supplémentaire chez Kate et William. En Allemagne également, nous en avions parlé il y a quelques semaines de cela sur C'est l'info, trois mois après les législatives de septembre qui n'ont pas permis de dégager de majorité politique claire à la Chambre des députés, le pays est toujours sans gouvernement et après l'échec en novembre de premières négociations entre conservateurs, libéraux et écologistes, le président aurait pu déclencher une procédure débouchant sur une dissolution, mais il a préféré mettre la pression sur les sociaux-démocrates pour revenir à la table des négociations. Et seul un accord de principe sur un gouvernement entre conservateurs d'Angela Merkel et sociaux-démocrates permettrait d'éviter de nouvelles élections. Des négociations préliminaires entre ces formations politiques pourraient d'ailleurs aboutir dès le 12 janvier. Voilà donc les principaux événements qui devraient secouer le monde en 2018. Je dis bien les principaux parce qu'il y en a tant d'autres, à commencer par la Catalogne. Hein. Évidemment, nous l'avons suivi, couvert pour vous sur CNN. Info, que va-t-il se passer en Catalogne ? L'Union européenne qui doit également continuer à évoluer, notamment autour des discussions sur le Brexit. Le 18 mars, retenez bien aussi cette date des élections qui auront lieu en Russie. Et Vladimir Poutine semble être le grand favori lors de ces élections. Un autre sujet chaud que nous allons à présent aborder, c'est l'Iran. Hein. À bas la dictature, mort à Rouhani, ces slogans résonnent depuis une semaine en Iran, une vague de protestations secoue une quarantaine de villes du pays. On va en parler dans quelques instants avec Jonathan Piron. Il est historien, spécialiste du Moyen-Orient. On va avec lui donc revenir sur tous ces événements qui secouent le Moyen-Orient. Et puis après, les brèves de la semaine, je vous parlerai notamment du Bitcoin. Figurez-vous que cette fameuse crypto-monnaie ne représente plus qu'un tiers de la valeur même totale des crypto-monnaies. Et puis Alexander Seale sera également là. Il nous parlera du système de santé au Royaume-Uni dans sa chronique Ici Londres. Restez donc avec nous sur C'est l'info. Tout de suite, on parle juste après la jingle de l'Iran.
C'est l'info, l'invité de la semaine.
La République islamique d'Iran est touchée par une vague de protestations qui traverse tout le pays, bien qu'elle épargne relativement la capitale Téhéran. Depuis jeudi dernier, une vingtaine de personnes ont été tuées, dont une majorité de manifestants hostiles au gouvernement. Alors que le président iranien Hassan Rouhani, chef de file des modérés, a été réélu à la tête du pays en mai dernier, nous allons aujourd'hui faire le point sur ce mouvement de contestation protéiforme qui met en avant des revendications tant économiques, sociales que politiques. Pour en parler, nous recevons Jonathan Piron. Bonjour et bonne année.
Merci, bonjour, meilleurs voeux également.
Vous êtes historien, politologue, conseiller à la prospective chez Etopia. Alors, quelles sont les causes de ce mouvement ?
Donc, s'il faut revenir à court terme, il y a deux séquences qui ont commencé à partir du 28 décembre. Donc, le premier, c'est à Machad, dans le nord-est du pays. C'est une ville religieuse qui est proche de la frontière afghane. Et il semblerait qu'il y ait eu une manifestation qui ait été provoquée par des éléments ultra-conservateurs qui cherchaient en fait à amener une contestation sociale contre Rouhani. En effet, Machad, c'est une ville religieuse qui n'est pas réputée être un centre de contestation comme les Téhéran, par exemple, et qui est justement la base sociale d'Ebrahim Raisi. Alors Ebrahim Raisi, c'est l'ancien candidat à la présidentielle, le candidat de la frange conservatrice, voire même ultra-conservatrice, et qui a échoué donc à la présidentielle de 2017 contre Rouhani. Et donc on a vu, notamment à travers certaines informations qui ont été diffusées via des canaux smartphone qui s'appellent Telegram, on a vu donc des premières manifestations se dérouler à Machad qui critiquaient la politique économique de Rouhani, qui critiquaient notamment le manque d'emploi, les inégalités, le coût de la vie, etc. etc. Ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, le lendemain, cette manifestation est sortie de son cadre et qu'il y a eu une propagation des contestations à l'échelle du pays. Et donc c'est presque tout, en fait, l'Iran qui a été touché en quelques jours par des manifestations spontanées. Il y a quelques provinces qui ont été épargnées parce qu'en fait elles sont peu peuplées, elles ne sont pas non plus des centres de contestation. Mais on a vu, notamment dans tout l'ouest de la région, donc dans tout l'ouest de la République islamique, différentes villes connaître ce genre de manifestations qui sont en fait acéphales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure organisatrice comme on l'a trouvé par le passé, il n'y a pas un leader qui demande à ce que les Iraniens descendent dans la rue. Il y a eu en fait une mobilisation qui s'est faite de manière virale et qui a entraîné donc les différentes journées de manifestations qu'on a connues depuis le 28 et le 29 décembre.
Oui, et là est la différence par rapport notamment au mouvement de juin 2009.
En effet, donc par rapport aux contestations de 2009, suite à la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad, on avait vu en fait ce qu'on appelait le mouvement vert se mettre sur pied avec un leader qui était le candidat à la présidentielle Mousavi, avec également toute une série de protestations où Téhéran était l'épicentre et où les manifestations ont charrié des centaines de milliers, voire des millions de personnes, puisqu'en fait les contestations se sont étendues sur presque un an. Ici, on n'est pas du tout dans le même cadre, puisque ce n'est pas Téhéran qui a été l'épicentre de départ, c'est Machad, et aussi surtout parce qu'en l'absence d'une structure, il n'y a pas eu non plus des manifestations monstres, on a plutôt eu des petits rassemblements dans des villes moyennes du pays, et aussi Téhéran a suivi. Et dans Téhéran, avec la présence de la police émeute assez massive dans la plupart des rues du centre de la ville, on a vu plutôt des petits rassemblements d'une demi-heure, par exemple, avec 50 personnes qui se rassemblent, qui lancent des slogans hostiles, qui mettent le feu à des poubelles et puis qui se dispersent. Donc on a vraiment une construction, une configuration de la mobilisation et de la contestation sociale complètement différente de celle de 2009.
Et alors justement, le président iranien Hassan Rouhani, arrivé au pouvoir en 2013, réélu en mai dernier, Hassan Rouhani est justement sorti du silence dimanche 31 décembre au soir en affirmant que le peuple a la liberté absolue de pouvoir critiquer et même de manifester. Alors là, en Iran, et un président iranien qui fait une telle déclaration, ça surprend quand même, hein.
Oui et non. En fait, Hassan Rouhani, notamment dans ses dernières campagnes électorales, a toujours essayé de prôner une ouverture à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc il y a tout ce qu'on a vu avec la négociation sur le nucléaire, la levée de l'embargo qui a été menée avec beaucoup de force et beaucoup de vigueur par son ministre des Affaires étrangères. Mais également, on le connaît moins, toute une série d'appels de la part de celui qui était encore candidat, a essayé d'ouvrir un peu, justement, de desserrer l'étau donc du système qui est en place au sein de la République islamique. Maintenant, il y a beaucoup de déclarations et il y a peu d'actes. Il faut savoir que Hassan Rouhani, même s'il est président de la République, n'a finalement que peu de pouvoir. Ses marges de manœuvre sont assez restreintes. Il y a toute une série de contre-pouvoirs qui existent à l'intérieur du système du Velayat-e Fakhri, qui s'appelle donc le système qui est en place au sein de la République islamique, dans laquelle, dans différentes autres institutions, ce sont des ultra-conservateurs qui sont en place. Et que donc, même si le Parlement et la présidence sont aujourd'hui contrôlés par des modérés, ce ne sont pas des réformateurs, ce sont des modérés, dans d'autres institutions essentielles du système islamique, il y a aujourd'hui en fait des personnes qui lui sont hostiles et qui font le nécessaire pour éviter justement que ces différents projets politiques ne parviennent pas à se mettre en place. C'est ainsi qu'on peut d'ailleurs se demander si la tentative de provocation portée par des ultra-conservateurs à Machhad n'était pas d'ailleurs une forme d'action pour essayer de limiter au maximum les actions de Rouhani. Il faut bien entendu savoir que cette proposition d'ouverture est mal vécue par différentes factions à l'intérieur du régime, parce que certains craignent que cela mette en danger le système même de la République islamique, et puis aussi parce que certains craignent que plus d'ouverture ne leur fasse perdre les pouvoirs qu'ils occupent pour le moment.
Et alors justement, vous expliquez qu'Hassan Rouhani avait peu de pouvoir au final. Quel rôle justement peut jouer le guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei ?
Donc c'est le guide qui est le véritable chef d'État pour le moment à l'intérieur de l'Iran. Il est en place depuis la mort de l'ayatollah Khomeini en 1989 et c'est lui qui contrôle l'ensemble des structures. Il est le chef des armées, il commande les passes d'arrance, c'est lui qui nomme également la plupart des personnes à l'intérieur du système judiciaire. Il peut nommer aussi toute une série d'autres personnalités d'influence comme ceux qui vont diriger la télévision, etc. etc. Donc ce qu'il va faire, lui, et son intention quand on connaît la personnalité de Khamenei, c'est essayer en fait de diviser pour mieux régner. Il ne faut pas voir l'intérieur du système de la République islamique comme étant un bloc monolithique. En fait, il y a énormément de jeux de factions, de différents groupes qui veulent essayer de ménager leurs intérêts. Et donc, ce que Ali Khamenei cherche à faire, c'est de jouer le rôle d'arbitre, tentant en insistant, par certains moments, pardon, en insistant sur une faction, et à d'autres moments, en jouant lourd sur l'autre faction pour essayer toujours d'arriver à une espèce d'équilibre des pouvoirs. Mais son intention à lui, comme il l'a affirmé plusieurs fois, c'est d'essayer de lutter contre ce qu'il appelle l'invasion culturelle occidentale et de maintenir justement la spécificité du régime de la République islamique, à la fois pour des raisons qui lui sont propres, mais aussi pour des raisons de contrôle et d'idées de durabilité justement du système, éviter donc qu'il ne s'effondre.
Alors parlons à présent, Jonathan, de la situation économique. La situation économique en Iran a tendance à s'améliorer depuis l'arrivée au pouvoir de Hassan Rouhani en 2013. Et si le chômage affecte près de 15% de la population chaque année, ce sont quelque 800 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail. Dans le même temps, l'Iran connaît depuis ces derniers mois une inflation constante. Le prix des œufs et de la volaille a de nouveau augmenté en décembre, atteignant une hausse de 50% en un an. Et face à tout cela, eh bien, le porte-parole du gouvernement, Mohammad Bagher Nobakht, a tenté samedi soir d'apaiser la situation en annonçant que le prix de l'essence n'augmenterait pas de 50% à partir du 21 mars 2018, date de la nouvelle année iranienne. Quelle stratégie économique l'Iran adopte-t-elle aujourd'hui ?
En fait, il faut remonter à la présidence précédente, celle de Mahmoud Ahmadinejad, pour comprendre la situation dans laquelle se trouve l'Iran aujourd'hui d'un point de vue économique. C'est qu'avec les différentes sanctions internationales qui ont été votées à la suite justement de la contestation sur le nucléaire, l'économie iranienne s'est littéralement effondrée. Donc l'inflation a explosé. On s'est retrouvé aussi dans une situation où différents subsides qui étaient accordés par le pouvoir ont dû être revus à la baisse parce que l'Iran n'avait plus les moyens justement d'assurer sa politique de redistribution de la rente. Également avec toute une série de jeux qui ont été faits sur le pétrole qui ont diminué les rentrées sur lesquelles la République islamique compte beaucoup. Et donc en fait, on s'est retrouvé dans cette situation où Hassan Rouhani, en arrivant au pouvoir, a dit qu'il ferait tout pour redresser l'économie et que le premier moyen, c'était justement d'arriver à la levée des sanctions sur le nucléaire. Donc il y est parvenu, néanmoins la relance n'a pas suivi, pour des raisons à la fois internes et externes. Dans les raisons internes, c'est que le système est très corrompu. Et donc on se retrouve en fait à tous les niveaux avec différents obstacles et différents verrous qui empêchent justement l'économie de reprendre pleinement pied. On se retrouve également avec un pays qui souffre d'un manque d'investissement et donc d'infrastructures qui lui permettent de tenir son rang en quelque sorte. Le système pétrolier par exemple, les infrastructures d'hydrocarbures sont complètement vétustes et l'Iran pendant très longtemps d'ailleurs a été un acheteur d'essence. C'est-à-dire qu'il vendait son pétrole, mais qu'il devait importer son essence donc raffinée pour pouvoir faire tourner cette voiture. D'ailleurs, souvent, c'était de l'essence qui était de très mauvaise qualité. Et pour des raisons externes, c'est que, en fait, les investissements qui auraient dû venir avec la levée de l'embargo ne sont pas arrivés. Parce que l'Iran, il faut le rappeler, n'est pas un membre de l'OMC et qu'il y a toute une série d'ailleurs de situations qui sont difficiles pour des investisseurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une protection, notamment dans la politique des brevets, etc., etc. Et puis aussi, il y a eu différentes pressions qui ont été mises par la nouvelle administration américaine, donc du côté de Trump, qui essaye d'empêcher au maximum la reprise donc des investissements, notamment européens, et qui fait peur alors à toute une série de grands partenaires, de grandes multinationales qui pourraient décider donc d'investir dans le pays. Il y a quelques exceptions d'entreprises européennes qui ont décidé de reprendre des contacts et qui ont décidé de reprendre pied en Iran. C'est par exemple Total, c'est aussi Airbus. Mais pour le reste, dans les PME qui pourraient justement essayer de jouer un rôle plus diffus, il y a quand même toujours une grande frigidité, une grande peur à vouloir retourner en Iran, donc à la fois pour ses raisons internes et pour ses raisons externes.
Oui, vous évoquiez Total, effectivement, méga contrat d'un montant de 4,8 milliards de dollars. L'Iran connaissait également un rayonnement important dans le domaine du tourisme et dans le domaine universitaire. On peut s'attendre avec ces manifestations à une baisse des étrangers sur le sol iranien ?
Ça, c'est très difficile à dire. Donc, il faut voir maintenant comment la situation va évoluer et comment le régime aussi va décider de reprendre le contrôle face à des manifestations qui, semble-t-il, aujourd'hui, sont en train de s'essouffler. Il y a eu d'ailleurs aujourd'hui toute une série de contre-manifestations organisées par le régime, massives, avec plusieurs centaines, voire des milliers de personnes présentes dans les rues, qui voulaient démontrer justement que le pouvoir était toujours en place et qu'il refusait de voir les contestataires, ce que le régime d'ailleurs appelle les tenants de la sédition, prendre donc le contrôle des rues. Donc les semaines qui vont venir vont être assez importantes pour voir comment le pouvoir en place va réagir. Est-ce que Rouhani et son administration vont tenter l'ouverture ? C'est d'ailleurs dans sa déclaration qui a eu lieu il y a quelques jours, ce terme qu'il avait employé, le terme de « ouvrir l'espace ». Donc maintenant, il faut voir quel espace va être ouvert. Est-ce que c'est un espace économique, un espace social, un espace politique ? Comment est-ce également les factions plus dures à l'intérieur du régime vont-elles réagir ? On a vu des déclarations des gardiens de la Révolution, qui sont donc les forces paramilitaires très importantes dans le pays, qui ont ouvertement dit « si la situation continue, nous allons descendre dans la rue et rétablir l'ordre ». Pour le moment, on n'est pas encore arrivé dans cette situation-là, mais on sent qu'il y a différentes tensions également entre les différents pouvoirs en place qui essayent donc de se positionner. Il faudra voir comment, par la suite, les choses vont évoluer, même si, pour le moment, il semblerait qu'on est en train d'assister à une situation plus calme dans laquelle le mouvement est progressivement en train de s'essouffler.
Oui, alors justement, dans le même temps, aux États-Unis, on se frotte les mains. Le président américain a publié pas moins de 6 messages à propos des manifestants, des manifestations. 6 messages sur son réseau social préféré, Twitter. Fidèle à sa ligne dure sur l'Iran, il a notamment, Donald Trump, critiqué la politique de son prédécesseur. Qu'en est-il de la probable manipulation des États-Unis que beaucoup dénoncent ?
Donc on insiste parfois souvent sur cette idée un peu complotiste, la présence de la CIA ou de différentes autres officines de renseignement, Israël, l'Arabie Saoudite, qui auraient manipulé justement les populations, qui auraient entraîné différentes mouvements de contestation.
C'était ce qu'affirmait le média russe Russia Today il y a 2 jours. Hein.
En effet, mais ce sont aussi des médias, notamment de la part de RT ou de Sputnik, ou surtout des médias qui viennent du Moyen-Orient, qui ont une logique politique. S'ils agissent de cette manière, c'est aussi avec l'intention d'apparaître en victime et de dénoncer une espèce de main invisible qui est en train de tirer les différentes ficelles mondiales pour essayer justement d'arriver à un chaos qui profiterait donc aux Occidentaux, aux camps de l'Occident. C'est souvent une grande exagération. Donc ils ont un intérêt justement, ces différents médias, à présenter leur pays comme étant des victimes. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'au Moyen-Orient, la logique complotiste, elle fait floresse. On retrouve d'ailleurs toute une série de défenseurs des théories du complot qui ont un accès aux médias nationaux et qui entretiennent justement cette idée un peu des nations assiégées. Maintenant, dans les faits, il faut essayer de nuancer, il faut quand même essayer de revenir justement avec des éléments factuels, en prenant compte justement toute une série de mutations sociales qui ont lieu aujourd'hui en Iran et dans la région et qui permettent d'expliquer ces différentes mobilisations qui sont originales, qui sont nouvelles, qui sont non plus verticales mais horizontales, qui sont spontanées. Mais il y a des racines, donc on peut trouver justement ces différents fondements en essayant d'étudier l'Iran et de le comprendre de plus près. Maintenant, par rapport à la politique américaine, il va y avoir un événement très important dans quelques jours, vers la mi-janvier, ça va être la décision de Trump de prolonger ou non le deal nucléaire. Et donc il va se retrouver justement avec un élément qui pourrait avoir une influence très forte sur la manière dont l'économie iranienne pourrait repartir ou non, c'est que s'il décide, c'est encore hypothétique, mais s'il décide de revenir sur l'accord nucléaire une fois pour toutes et de retirer les États-Unis, on pourrait donc avoir différents investisseurs étrangers qui vont avoir une grande frilosité à retourner en Iran, et on pourrait surtout avoir le toman, qui est la monnaie iranienne, repartir en flèche vers le haut et recréer une nouvelle spirale inflationniste qui serait très dommageable pour l'économie iranienne. Donc Trump, depuis toujours, en fait, depuis d'ailleurs sa campagne présidentielle, est hostile à l'Iran. Il est entouré de toute une série de conseillers qui, depuis longtemps d'ailleurs, ont déclaré qu'ils souhaitaient un changement de régime, ou en tout cas que l'accord sur le nucléaire était une très mauvaise chose et que les États-Unis devaient s'en retirer. Et donc il évolue dans ce climat où il ne faudra pas attendre un geste positif de sa part à l'égard de l'Iran. Et il a cet instrument qui est très fort, c'est justement cette prise qui pourrait débrancher par rapport à l'accord nucléaire et qui va avoir de nombreuses conséquences. Donc il faudra voir alors par après comment l'Union européenne elle-même va réagir. C'est un acteur économique très important, c'est un arbitre aussi, un intermédiaire qui a occupé un rôle assez positif dans la manière dont l'accord nucléaire a été obtenu. Et donc, s'il y a des armes qui sont aujourd'hui dans les mains de Donald Trump, il y a aussi des réponses qui pourraient être apportées par les différentes instances européennes pour essayer, à tout le moins, d'atténuer les conséquences d'un éventuel retrait des États-Unis de la Cour sur le nucléaire.
Oui, et ces réponses arriveront, selon vous, l'Union européenne sera unanime sur ce dossier ?
Pour le moment, en tout cas, dans la manière dont Federica Mogherini, la haute représentante au sein de l'Union européenne, s'exprime, il semble qu'il y ait une unanimité. Et c'est d'ailleurs aussi différentes affirmations qui ont été portées par le président de la République, donc Emmanuel Macron, qui affirmait continuer à vouloir soutenir l'accord sur le nucléaire. Maintenant, il faudra voir comment les entreprises vont réagir et comment également toute une série d'autres facteurs externes et internes pourront jouer dans ce dossier. Mais en tout cas, dans les dernières informations qui sont disponibles, il y avait une volonté affichée, une volonté même claire, de l'Union européenne et de ses différents États membres de continuer à soutenir le maintien de l'accord sur le nucléaire.
Alors sur la Russie à présent, on l'a vaguement évoqué tout à l'heure effectivement avec Russia Today et Sputnik et le rôle qu'ont joué et que jouent ces médias dans ces manifestations. On le sait, hein, Moscou entretient d'étroites relations avec Téhéran. Vladimir Poutine s'est d'ailleurs rendu dans la capitale iranienne en novembre dernier afin de signer des contrats principalement d'ordre économique. La Russie et l'Iran coopèrent déjà pour la construction de deux nouveaux réacteurs dans le sud de l'Iran.
Oui, il y a d'ailleurs eu une coopération sur le nucléaire qui est très ancienne et qui remonte aux années 90 avec la construction de la première centrale de Bouchehr, qui a mis d'ailleurs très longtemps à être construite, notamment dans l'uranium qui était fourni pour l'activer. On sent que Vladimir Poutine, par différents moments, essaie de ralentir justement la construction de cette centrale pour peser sur différentes décisions qui étaient prises par la présidence Ahmadinejad donc, à l'époque. Maintenant, les liens entre la Russie et l'Iran ne sont pas que économiques. Ce sont aussi des liens d'intérêt géopolitique qui se manifestent énormément pour le moment en Syrie, puisque ce sont les deux puissances qui ont permis le maintien donc, du régime de Bachar el-Assad. Les Russes avec les différentes forces qui ont été impliquées, notamment d'un point de vue aérien, et l'Iran avec différentes forces terrestres, et notamment des milices qui ont été armées par l'Iran à partir de volontaires un peu forcés, mais des volontaires afghans, des volontaires irakiens, et puis surtout les Pazdarans qui sont présents sur le territoire syrien. Donc on voit que pour le moment, les deux puissances, donc russes et iraniennes, ont des intérêts communs. Et que la Russie ne va pas chercher, justement, ne va pas vouloir à ce que son principal allié dans la région, qui dispose d'ailleurs de toute une série de leviers, soit abandonné et prenne le risque, justement, d'un effondrement.
Oui, alors on assiste finalement un petit peu dans la région à une bataille États-Unis, Arabie Saoudite, sunnite, et Iran, Russie, chiite, hein.
Mais il faut aussi un peu nuancer la question d'une guerre entre des sunnites et des chiites, puisque c'est une construction qui a été
qui
portée notamment par...
sont deux communautés musulmanes, hein, pour rappeler.
Voilà, des communautés religieuses. Donc on n'a pas affaire à une guerre de religion entre des sunnites et des chiites. On affirme par exemple que l'Arabie Saoudite est le leader des sunnites et que la République islamique d'Iran est donc le leader des chiites. C'est un peu forcer le trait à l'intérieur de la communauté chiite. C'est très divisé. On ne reconnaît pas non plus l'autorité spirituelle de Ali Khamenei, le guide de l'Iran. Et l'Iran, d'ailleurs, par le passé, n'a jamais montré non plus d'affinité pour certains groupes chiites qui décidaient de rentrer dans des périodes de contestation, comme notamment c'était le cas en Irak après la guerre du Golfe en 91, où l'Iran a laissé des chiites se laisser massacrer par Saddam Hussein. Et d'ailleurs, dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan est chiite. Pourtant, l'Iran a soutenu l'Arménie, qui n'est pas du tout un pays chiite. Donc, la manière dont en fait l'Iran agit aujourd'hui dans son voisinage propre, c'est d'abord d'une manière pragmatique, comme un État en fait classique, qui essaye de maximiser ses intérêts, de profiter d'opportunités qui se présentent. Et l'Iran en a eu quand même pas mal depuis la chute des talibans, qui était un des principaux ennemis, depuis la chute de Saddam Hussein, et aussi depuis l'effondrement donc de la Syrie. D'autant plus qu'en face, du côté saoudien, il y a toute une série de transformations qui sont en train d'affecter justement le leadership saoudien, avec un prince héritier donc, qui est aujourd'hui le roi de facto, mais qui est en train de commettre beaucoup d'erreurs stratégiques par ses différentes interventions. On n'a qu'à se rappeler du chaos dans la manière dont le dossier libanais a été géré. Ce dont on a affaire en fait aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est un conflit entre différentes parties et à différents niveaux. Il y a d'abord des conflits locaux, comme on le voit notamment en Irak et en Syrie, avec des guerres civiles traditionnelles entre différentes factions. Il y a sur cela un conflit régional, avec une guerre froide entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et qui est avant tout une guerre de leadership sur son deux puissances qui essayent de maximiser leurs intérêts et de dominer la région. Il y a au-dessus de ça des conflits internationaux entre la Russie et les États-Unis qui essayent également de jouer un rôle très actif dans la région. Et puis au-dessus de cela, il y a un conflit global avec l'accession djihadiste qui vient se rajouter et qui a également différents facteurs d'influence qui commencent à se disperser ailleurs dans la région. Et donc vous avez tous ces fils qui sont en train de s'en mêler, avec des alliances d'opportunités qui se font entre les différents acteurs suivant l'actualité, suivant les brèches qui s'ouvrent encore une fois. Et toute cette situation fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces conflits est très difficile à démêler et qu'il faudra justement essayer de penser le Moyen-Orient d'une manière différente que ce que nous avons fait aujourd'hui, parce que, outre ces mutations géopolitiques, la région est concernée par des mutations sociales, démographiques et économiques très profondes qui vont avoir des conséquences sur les 10 ou 15 prochaines années.
Et oui, des mutations sociales notamment. 90% des personnes arrêtées durant ces manifestations avaient moins de 25 ans.
Ce sont les chiffres qui ont été...
Du ministère de l'Intérieur.
Voilà, iranien. Donc, il faut faire attention dans la manière dont ces chiffres sont révélés. Est-ce qu'il y en a plus Est-ce que ça ne concerne effectivement que des jeunes? Mais il semblerait que ce soit une tendance. Ce qui d'ailleurs surprend très fort en Iran, quand on interroge des personnes qui viennent de la classe moyenne urbanisée, ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Parce qu'en effet, c'est un public qu'on n'est pas habitué à rencontrer justement dans les différentes contestations qui ont eu lieu ces dernières années en Iran. En fait, ce sont des personnes qu'on retrouvait plutôt dans des petites manifestations qui passaient sous le radar, qui existent depuis maintenant très longtemps, depuis à peu près 3-4 ans dans le pays, mais auxquelles on ne prêtait pas attention. Et donc, il y a un peu un effet, pour le dire de manière caricaturale, comme l'élection de Trump a fait aux États-Unis pour la classe moyenne américaine. C'est qu'en fait, certaines personnes se rendent compte aujourd'hui qu'il existe finalement autre chose à l'intérieur de leur pays. Il y a un peu tous ces oubliés qui viennent de se manifester, qui viennent de dire que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont les choses sont en train d'évoluer. Or, ces oubliés, ils ont été justement dans cette situation de déshérence dans laquelle on ne tenait pas compte de leurs aspirations. Ils viennent de pousser la porte et de dire « nous sommes là et vous devez également nous écouter ». Et c'est pour ça que c'est une situation qui est très difficile à analyser, c'est que c'est surprenant pour beaucoup d'analystes, on ne s'y attendait pas. Et la classe moyenne d'ailleurs iranienne est elle-même complètement perdue par cette situation. Et il va falloir justement essayer de fabriquer de nouveaux éléments d'analyse, des mouvements, des mobilisations et des contestations sociales en Iran, parce que c'est une nouvelle dynamique finalement qui est en train de se développer, qui va certainement avoir encore des influences et des conséquences par la suite. Elles vont peut-être s'estomper, elles vont peut-être se dissiper, mais néanmoins il y a un mouvement ici qui a été porté, qui va certainement laisser des traces, en tout cas des traces dans les esprits.
Et alors justement, ce sera ma dernière question. Jonathan, et elle est très vaste. Ces manifestations peuvent-elles finalement, au final, annoncer une révolution, une nouvelle révolution?
Pour le moment, non, parce qu'il n'y a pas des grands mouvements de masse comme on l'a retrouvé en 1979 avec la chute du Shah. Il n'y a pas des millions de manifestants qui sont présents dans les rues. Ce sont plutôt des petites manifestations dans des villes moyennes. Téhéran ne suit pas. Et il semble aussi qu'il y ait une scission donc, entre cette classe moyenne et ces classes plus précaires et ces jeunes. Donc pour le moment, la République islamique garde le contrôle. Maintenant, il faut voir comment les choses vont évoluer par la suite, mais dans une question vraiment beaucoup plus sociale, beaucoup plus sociologique, et comment cette espèce de transformation qui est en cours va avoir des influences alors à moyen, voire à long terme. Néanmoins, c'est un coup de semonce qui a été envoyé auprès du pouvoir en place parce que sa rhétorique, depuis 1979, c'est celle de la défense des déshérités. C'est le terme d'ailleurs qui est employé, c'est celui de Mostazafine. Et donc ici, il y a justement eu ce boomerang qui vient d'être envoyé en plein dans la figure du régime, c'est que ceux dont il se faisait le premier défenseur viennent de montrer que, en fait, vous ne nous défendez pas. Comment est-ce que, alors, par la suite, justement, la rhétorique du régime va essayer de toujours se construire avec ces différentes couches de la population? C'est une question. Et aussi, comment, maintenant, à l'intérieur du régime, les différentes factions vont parvenir, encore une fois, à se présenter comme étant soit dans la défense de tel type de population, soit dans la défense de tel autre type de population. Parce que les premiers perdants, finalement, ce sont peut-être les réformateurs et les modérés. Ils se présentaient souvent comme une alternative aux conservateurs et aux ultra-conservateurs, en vantant justement l'ouverture, en vantant une gestion différente de la République islamique. Or ici, par toute série de déclarations qui ont été faites, notamment de l'ancien président Khatami, il y a eu une espèce de bloc qui s'est réalisé pour la défense de la République islamique, pour la défense de la structure. Ça pourrait avoir des conséquences d'un point de vue électoral. Il pourrait y avoir d'ailleurs une espèce de mépris d'une partie de la population qui pourrait se réaliser vis-à-vis des réformateurs en disant « mais finalement, vous ne souhaitez pas cette ouverture que vous prenez dans votre discours, et dans les faits, vous êtes sur un pied d'égalité par rapport donc aux autres factions en place. » Et donc il faudra voir par la suite, aux prochaines élections, comment ces différentes manifestations pourraient se traduire donc dans les urnes.
Les prochaines élections en Iran qui seront dans...
Donc, ce sont des élections qui ont lieu
Alors, on a eu des élections en mai dernier.
Donc, les élections présidentielles, c'est tous les 4 ans. C'est la même chose également pour des élections législatives. Les élections législatives ont toujours lieu un an avant les élections présidentielles. Donc ici, pendant encore au moins 2 ans, le pouvoir remplace est certain de rester avec les mêmes structures politiques élues, puisqu'il y a une partie élue, une partie non élue. Mais pour ce qui concerne le Majlis, le Parlement, la situation est stable pour encore 2 ans. Maintenant, 2 ans, c'est à la fois long et à la fois court. Et donc, il pourrait y avoir toute une série d'autres événements qui pourraient influencer et avoir donc un rôle assez important dans le scrutin législatif.
Jonathan Piron, merci d'avoir accepté l'invitation de C'est l'Info, historien, politologue, spécialiste du Moyen-Orient et conseiller à la prospective chez Etopia.
Merci à vous.
Voilà donc, hein, passionnant cet entretien avec Jonathan Piron sur l'Iran et sur tous les enjeux que couvre aujourd'hui effectivement la région du Moyen-Orient. On en avait déjà parlé hein, du Moyen-Orient il y a quelques semaines de cela sur C'est l'Info avec Roland Lombardi. Je vous invite à réécouter notre émission consacrée à cela. Les brèves de la semaine à présent, à commencer par Emmanuel Macron qui s'exprime rarement dans les médias et depuis son élection, le président de la République s'est contenté d'interviews au compte-gouttes. Il a même instauré une certaine distance avec les journalistes, source de tensions et d'incompréhension. Et le chef de l'État a cependant tenu à présenter ce mercredi 3 janvier ses vœux à la presse lors d'une cérémonie organisée à l'Élysée à 17h30 pile. Le président renoue ainsi avec une tradition de la 5e République née sous la présidence du général de Gaulle. Le rituel des vœux à la presse avait été délaissé depuis François Hollande, en 2014, l'ancien locataire de l'Élysée avait remplacé l'exercice par une conférence de presse qui avait lieu 2 fois par an, tous les 6 mois. En les rétablissant, Emmanuel Macron remet donc à jour cette tradition qui marque une volonté d'apaisement et qui livre surtout quelques pistes concernant la régulation des médias et l'avenir de l'audiovisuel public. Emmanuel Macron qui a également annoncé qu'un texte de loi allait être déposé prochainement pour lutter contre les fake news sur Internet en période électorale.
C'est pourquoi j'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre public l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. C'est un corrélat indispensable aux règles que nous avons fixées pour notre vie démocratique et nos débats politiques. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site Internet.
Voilà, Emmanuel Macron qui est également annoncé que les pouvoirs du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, seraient accrue. Il a expliqué devant les journalistes que les pouvoirs du CSA seraient accrus pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des États étrangers. Envoyant donc une pique aux médias russes, Russia Today, lancé le 18 décembre dernier, une nouvelle chaîne d'information en France qui vise donc justement à apporter une nouvelle analyse sur l'actualité, et une chaîne de télévision financée à 100% par le gouvernement russe de Vladimir Poutine à hauteur de 350 millions d'euros. Écoutez donc sur les propos d'Emmanuel Macron, la réaction à présent de François Calfon. Il a réagi donc au vœu à la presse d'Emmanuel Macron et à ses propos sur les fake news, et le membre de la direction collégiale du Parti Socialiste a ironisé sur les promesses de campagne du chef de l'État. On écoute.
Bah écoutez, sans aucun doute, peut-être celui du matin, même si on attend de voir, d'une certaine manière, on reste un peu sur sa fin, puisqu'on nous avait promis des tas de choses en 2017, et à l'arrivée, on pouvait s'attendre à une parole finalement plus verticale, des décisions plus équitables. On a eu une présidence que certains qualifient de présidence des riches, en tout cas un président qui était clairement à droite. Donc on attend quelque chose d'un peu mieux, si j'ose dire, en 2018 qu'en 2017. En ce qui concerne les fake news, je vais commencer par un petit propos sous forme de clin d'œil. Il est évident que le candidat Macron sera sanctionné s'il y a cette loi sur les fake news par le président Macron, puisque celui-ci, le candidat, avait promis qu'il n'y aurait pas de sans-abri et qu'on constate malheureusement qu'il y en a. Donc la diffusion de fausses informations des campagnes électorales, ça concerne aussi le président de la République. Ça, c'est pour la boutade. Sur le fond, je crois que c'est un peu compliqué quand même, en réponse à votre consoeur qui était extrêmement digne à un certain nombre d'interpellations sur la nécessité de transparence entre la presse et le président de la République. On a eu un président qui nous a parlé de verticalité, qui nous a parlé d'une parole statutaire par rapport à d'autres paroles qui seraient moins légitimes. On se demandait même d'ailleurs s'il n'attaquait pas un peu la presse là-dessus. Et puis finalement, on a quelqu'un qui n'est pas du tout vertical, contrairement à ce que M. Macron laisse voir comme impression, mais qui est atteint d'un syndrome bien connu qui est la sarkozyte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle, finalement lui-même n'était pas content de la reprise, si j'ose dire, de son séminaire de ce matin, il faut faire une annonce. Alors on fait une annonce, c'est les fake news, sans doute en référence à ce qu'ont été un certain nombre de médias liés à des puissances étrangères, sans mesurer que finalement on ne sera pas en mesure, j'ai entendu d'ailleurs votre débat tout à l'heure, qu'on ne sera pas en mesure de satisfaire l'ambition de cette annonce. On en parle toute la soirée, et puis derrière ça pose des questions plus fondamentales. Où commence la fake news, où celle-ci s'arrête-t-elle? Il y a un sujet de liberté de la presse, et c'est pas à vous que je vais le dire, vous connaissez ça par cœur. Ça n'est pas si simple que ça de légiférer sur ces sujets-là. On peut partager l'ambition du président, mais alors quelle est l'autorité de la parole présidentielle si comme ça, pour satisfaire finalement au souhait d'avoir une annonce par jour, un peu comme M. Sarkozy qui finalement a fini par s'y perdre, eh bien on fait des annonces qui ne sont pas maîtrisées. Or celle-ci manifestement n'est pas maîtrisée, et pour ce qui nous concerne, nous les socialistes, nous sommes extrêmement vigilants sur la question de la liberté de la presse.
Voilà François Calfon qui réagissait aux vœux du couple exécutif Emmanuel Macron en tête. François Calfon qui est membre de la direction collégiale du Parti Socialiste. Tout autre chose à présent, en économie, figurez-vous que le Bitcoin ne représente plus qu'un tiers de la valeur des crypto-monnaies. Alors le Bitcoin, pour rappeler aux auditeurs ce que c'est, le Bitcoin c'est donc la première crypto-monnaie sur le marché. Elle a été lancée en 2009, le 3 janvier 2009, elle fêtait donc cette semaine son anniversaire. Et le Bitcoin aujourd'hui, tout au long de l'année 2017, connu une augmentation de valeur fulgurante, $700 au début de l'année dernière. Aujourd'hui, il est à plus de $15,000. Et malgré tout, il n'y a pas que le Bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies sur le marché. Et la capitalisation totale de l'ensemble des 1380 monnaies virtuelles recensées à ce jour dépasse les $700 milliards de valorisation. 1380, c'est le chiffre à retenir, 1380, c'est le nombre de monnaies virtuelles qui existent donc aujourd'hui. On pourrait donc croire que le Bitcoin est à l'origine de cette envolée soudaine, mais il n'en est rien. La part qu'il représente sur la totalité de la capitalisation des crypto-monnaies a même fondu, passant de 55% à moins de 35% ce mercredi 3 janvier, un plus bas historique, ce qui veut dire que voilà, il y a une forme de diversification de ces crypto-monnaies et qu'aujourd'hui on investit plus seulement sur le Bitcoin, mais sur un certain nombre de crypto-monnaies. Alors, je peux vous donner un certain nom, le Litecoin, l'Ethereum, le Cardano, l'IOTA. Ces 1380 crypto-monnaies portent donc toutes un nom et donc aujourd'hui on n'achète pas seulement du Bitcoin mais on achète plein d'autres crypto-monnaies et c'est là que c'est intéressant de voir que finalement on est face à un monde en pleine mutation et que eh bien, si le Bitcoin joue son rôle, plus globalement c'est le marché des crypto-monnaies qui vient faire évoluer notre monde. Les banques centrales donc devraient désormais un petit peu plus étudier ce sujet. Toujours en économie, Apple, vous le savez, Apple a signé en référé l'association altermondialiste ATTAC, ATAC, auprès du tribunal de grande instance de Paris suite à l'occupation de son magasin de Paris Opéra, le magasin de l'Apple Store de l'Opéra a donc été occupé en décembre par l'association avec des banderoles. On arrêtera quand Apple payera, en référence aux impôts qu'Apple ne paye et ne règle toujours pas réellement en France. Et Apple demande donc au tribunal de grande instance de Paris d'interdire à l'association de pénétrer dans ses magasins hexagonaux pendant 3 ans sous peine d'une astreinte de 150 000 euros par violation de l'interdiction, ainsi qu'à verser à Apple 3 000 euros. Voilà, le 2 décembre dernier, hein, plusieurs militants d'ATTAC avaient envahi donc le magasin de Paris Opéra, toujours dans le cadre de cette campagne. Ils étaient également allés à Aix-en-Provence redécorer le magasin, toujours donc dans le cadre de cette campagne Apple paye tes impôts. L'actualité, c'est aussi les États-Unis. Hein. Dans les brèves de la semaine, je voulais vous parler de ce livre choc qui va sortir le 9 janvier, Fire and Fury Inside the Trump White House. En français, le titre serait Le feu et la fureur dans la Maison Blanche de Trump. Voilà un livre qui est écrit par le journaliste américain Michael Wolff. Michael Wolff qui multiplie les anecdotes sur les coulisses de la première année de Donald Trump à la Maison Blanche. Selon quelques extraits hein, déjà diffusés dans la presse américaine, le livre balaie de nombreux thèmes qui ont déjà marqué ce début de mandat. L'ingérence russe avec l'attaque au vitriol venue de l'ancien conseiller Stephen Bannon, le financement de la campagne ou encore les mystères capillaires du président américain, largement commentés depuis des mois. Mais parmi le lot de révélations, une est particulièrement saisissante, c'est celle que j'ai retenue. Michael Wolff écrit en personne au sein de l'équipe de campagne de Donald Trump. Personne ne s'attendait à ce que celui-ci remporte l'élection. Plus incroyable, on y lit que Donald Trump lui-même ne voulait pas devenir président des États-Unis et voyait uniquement cette candidature à l'élection comme un moyen de booster sa carrière à la télévision et en politique. Racontant le soir du 8 novembre 2016 qui a vu le mania de l'immobilier remporter l'élection à la surprise alors que la démocrate Clinton partait grande favorite, Michael Wolff écrit dans son livre, peu de temps après 20h, quand la tendance inattendue selon laquelle Trump pourrait gagner semblait se confirmer, Donald Trump Jr., c'est-à-dire le fils aîné de Donald Trump, a dit à un ami que son père ressemblait à quelqu'un ayant vu le fantôme. Melania, sa fille, était en larmes et pas de joie. Voilà donc ce que l'on peut lire dans ce livre que je vous invite à feuilleter. Hein, vous pourrez trouver des pages facilement sur internet. Fire and Fury Inside the Trump White House. Le feu et la fureur dans la Maison Blanche de Trump. Des États-Unis à présent, nous passons à Londres et ici Londres avec Alexander Seale qui va nous parler du système de santé en Grande-Bretagne, la NHS, juste après la jingle.
Ici Londres.
Début d'année difficile pour la NHS, système de santé britannique. Cette semaine, les patrons de la NHS ont annoncé l'annulation de dizaines de milliers d'opérations non urgentes, dans le but de réduire la pression sur les hôpitaux. Elles avaient déjà été reportées jusqu'à la mi-janvier, mais la NHS England a annoncé mardi que ces opérations seront désormais retardées jusqu'à la fin du mois. Les hôpitaux ont également reçu le feu vert pour placer les patients dans des dortoirs mixtes afin d'alléger la pression. Les données publiées par la NHS ont également montré qu'un nombre record d'appels ont été faits au 111, la ligne d'assistance gratuite qui a été créée en 2014. il y a eu 480 000 appels, une augmentation de 21% par rapport à la semaine précédente. Dans d'autres parties en Angleterre, le gouvernement gallois a annoncé que le service de santé faisait face à une pression importante et le directeur général de la NHS au Pays de Galles a présenté ses excuses aux patients dont des opérations avaient été reportées. En Écosse, il y a eu une augmentation de 20% des hospitalisations par rapport à l'année précédente, entraînant une augmentation du nombre de patients qui attendent plus de 4 heures. Et en Irlande du Nord, un hôpital a fait appel à des ambulanciers volontaires car il y a eu une augmentation aussi. Le ministre fantôme de la Santé, Jonathan Ashworth, du Parti travailliste, a déclaré que les chiffres montraient l'ampleur choquante de la crise de la NHS et que les ministres devraient avoir honte. Pendant ce temps, le Premier ministre Theresa May s'est excusé pour les problèmes dans les hôpitaux britanniques. Madame May a déclaré « Je sais que c'est difficile, je sais que c'est frustrant, je sais que c'est décevant pour les gens et je m'en excuse ». Pas sûr que cela changera les choses. Sur les réseaux sociaux, il y a eu de la colère, il y a toujours de la colère. La NHS est en crise et c'est à cause des mensonges du Brexit. À la semaine prochaine.
Allez, la Corse. À présent, en Corse, les nationalistes ont officiellement pris le pouvoir ce mardi 2 janvier 2018. Ils ont pris les rênes de toute la nouvelle collectivité unique de Corse, une sorte de super région née de la fusion de l'ancienne collectivité territoriale et des deux départements. Leur objectif est maintenant d'obtenir un véritable statut d'autonomie pour l'île de Beauté d'ici 3 ans, une revendication soutenue par plus de 56% des électeurs corses. C'est le score qu'ont obtenu les nationalistes aux élections régionales de décembre, mais seul un Corse sur deux était allé voter. À l'image de ces résultats, les habitants d'Ajaccio semblent donc divisés. C'est Marine de la Moissonnière de la rédaction d'RFI qui est allée les rencontrer. On écoute.
Alors, je déclare élu Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse.
Le triomphe des nationalistes, ce militant ne l'aurait manqué pour rien au monde. Gérard Poyot l'attendait depuis la naissance du mouvement il y a 40 ans. Ce retraité est venu exprès de Bastia.
On va faire un paese d'ava. Voilà, à partir d'aujourd'hui.
Vous m'avez dit un petit mot en Corse, là.
Oui, un paese d'ava. On va construire la Corse. On veut changer la Corse, la figure de la Corse, contrairement justement à ce que l'État français nous apporte ou nous a apporté jusqu'à maintenant. Eh ben, on va montrer qu'on a des valeurs, on va défendre cette valeur et défendre un pays.
Laisser les Corses gérer leurs ressources, voilà ce que veulent les nationalistes. Car Louis Stria a 22 ans, ce magasinier est actuellement au chômage, comme 3 jeunes sur 10 dans l'île. Il espère que les nouveaux élus sauront développer l'économie locale, mais ce qu'il attend avant tout, lui qui ne se sent pas français, c'est que son identité soit protégée.
Culturellement, sans racisme aucun, on n'a pas la même culture, quoi. Mais pour moi, être corse, ça veut dire partager une histoire qui n'est pas la même que celle du continent français, avoir une langue à part, avoir une certaine mentalité. Et je pense qu'ici, il y a plus de partage, ou du moins il y en avait. On avait une société villageoise et tout ça. Oui, on retrouve ça dans des provinces. Il y en a aussi sur le continent, mais envers la capitale, je trouve qu'on ne partage pas assez de choses pour se dire qu'on est français.
Les nationalistes veulent que le corse devienne la langue officielle de l'île avec le français et qu'un statut de résident soit créé pour limiter l'accès à la propriété. Cet habitant d'Ajaccio est farouchement contre.
La Corse doit être comme elle était avant, car moi, je ne suis pas corse, je suis de la Sardaigne. Et quand on est arrivé, vous savez, les portes étaient toujours ouvertes. Nuit et jour. Il faut être ouvert à tout le monde.
Autre ligne rouge, cette fois pour la plupart des Corses, l'indépendance. Les nationalistes promettent qu'il n'en sera pas question avant au moins 10 ans. Il va sans doute falloir bien plus de temps pour convaincre ce couple de retraités.
La délégation de la Corse à l'Assemblée constituante a voté le rattachement volontaire de la Corse à la France le 30 novembre 1789.
Voilà, ça a été voté par l'Assemblée, voilà.
Donc la Corse est française.
Ah bah pour nous, oui, elle est française, ça c'est clair. Hein. Ouais.
Les nouveaux élus nationalistes ont désormais 3 ans pour appliquer leur programme. Reste maintenant à voir quelle attitude adoptera le gouvernement face à leurs revendications qui nécessitent de modifier la constitution française. Marine de la Moissonnière, Ajaccio, RFI.
Marine de la Moissonnière à Ajaccio, donc pour RFI et pour la rédaction de C'est l'info, dont RFI est le premier partenaire, il faut donc le rappeler. C'est la fin de cette émission, merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer. Encore une bonne année à vous tous. Donc voilà, la rédaction de C'est l'info vous souhaite ses meilleurs voeux, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel pour certains d'entre vous. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Et d'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous sur le www.c-l'info.fr pour toujours plus d'actualités. Salut à tous!